Patrick Simon, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Alors, puisque nous sommes le lundi de Pentecôte, j'espère être inspiré par le Saint-Esprit, et je voudrais commencer cette chronique en vous invitant tous, amis auditeurs, à prier pour un homme que beaucoup d'entre vous ne doivent pas connaître. Il s'agit d'un Chinois qui s'appelle Jimmy Lai, L-A-I, je crois, qui est un patron de presse, enfin qui a été un patron de presse ayant réussi toutes ses entreprises à Hong Kong. Et ce milliardaire s'est converti au catholicisme dont il est un fervent adepte, mais il est aujourd'hui prisonnier, il est en prison, car il a été arrêté par le régime communiste chinois et il a été condamné à 20 ans de prison, alors qu'il est âgé de 78 ans. Et le sort de Jimmy Lai montre ce que sont devenus les opposants au communisme à Hong Kong, les opposants qui voulaient la liberté. Donc n'oubliez pas ce nom, Jimmy Lai, et priez pour sa libération, car Dieu peut tout, puisque là c'était récemment la journée pour les chrétiens persécutés, et bien c'est l'occasion de prier pour Monsieur Jimmy Lai. Alors maintenant j'en arrive à ma chronique, et je voudrais donner un petit message optimiste quand même, parce que dans l'émission qui vient de s'achever, c'était assez pessimiste. Alors moi, je vais vous donner une nouvelle optimiste. Peu à peu, même les mensonges les plus épais finissent par être découverts, ou carrément avoués. Ce fut le cas, tout récemment, de l'abandon partiel du nucléaire, puisque Mme von der Leyen a finalement dû se résoudre à reconnaître que c'était une erreur d'abandonner ou de réduire le nucléaire. Eh bien, voici un deuxième aveu, très important lui aussi, avec le degré du réchauffement climatique. L'atmosphère allait se réchauffer, nous disait-on, de 5 à 6 degrés dans la décennie à venir. C'est ce que nous annonçait le GIEC, tel Cassandre, à cause de nos funestes émissions de CO2. Eh bien, la décennie est presque passée et cette montée de la température ne s'est pas produite, du moins pas produite dans les proportions annoncées, mais beaucoup moins. En réalité, l'alarmisme, le pessimisme écologiste a pris du plomb dans l'aile et n'a plus la cote, car les gens, beaucoup de gens, n'y croient plus. De sorte que le GIEC a revu à la baisse ses prévisions pessimistes. Et je rappelle que Donald Trump a qualifié cet alarmisme écologiste de la plus grande arnaque du siècle. Effectivement, le climat a souvent changé dans le passé. Souvenez-vous du réchauffement à la fin du Moyen-Âge, quand le Groenland était vert. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Groenland. Hein. Groen, ça veut dire vert. Et à cette époque, fin du Moyen-Âge, les femmes vikings portaient des mini-jupes. Souvenez-vous de la petite ère glaciaire sous Louis XIV, quand les vins se gelaient au château de Versailles. Il y a toujours eu des changements climatiques, soit vers le froid, soit vers le chaud. Donc, c'est dans ce contexte peu favorable à l'écologie que le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision à contre-temps, complètement à contre-temps, en censurant l'article de loi qui a supprimé les ZFE. Je crois que ça veut dire zone franche d'émission. Mais j'en suis pas tout à fait sûr. Bon, les ZFE, vous savez ce que c'est, amis auditeurs, ce sont ces zones qui interdisaient aux véhicules anciens ou véhicules jugés polluants, critères 3 ou 4, l'accès à certaines grandes agglomérations comme Paris pour les voitures des gens habitant des zones rurales éloignées, ce que l'écrivain Alexandre Jardin a appelé les gueux. Cette interdiction était, c'est évident, contraire aussi bien aux libertés fondamentales de se déplacer qu'au principe d'égalité, puisqu'elle crée une discrimination entre les provinciaux ou banlieusards et les urbains des centres-villes. Votée tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, cette disposition a été soutenue par la majorité des parlementaires et la majorité du peuple français, puisque les sondages semblent révéler qu'il y a une forte majorité de Français favorables à cette suppression. Eh bien, cette suppression vient d'être annulée par le Conseil constitutionnel. Alors pourquoi ? Eh bien, le motif avancé par les sages est de pure forme. C'est seulement une raison procédurale qui explique cette décision. On nous dit que la suppression figurait dans une loi dite de simplification. Et la suppression des ZFE n'aurait pas pour objet de simplifier. Hein. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques un cavalier législatif. Moi, ce raisonnement me paraît fort contestable, car permettre à certains véhicules d'entrer dans les grandes villes, ça me paraît être de la simplification. Mais enfin, bon, admettons même ce raisonnement, hein, à savoir que ça ne faisait pas partie de la loi, ce n'était pas dans l'objet de la loi où cette disposition était insérée, eh bien, la solution est simple alors. Il suffit de voter à nouveau un texte de loi qui prévoit la suppression des ZFE et qui le prévoirait par une loi où il y aurait même un article unique en somme, qui le prévoirait exclusivement et simplement sans autre règle. En somme, ce serait reculer pour mieux sauter. Et c'est certainement ce qu'il faudra faire. Mais pour le moment, cette censure du Conseil constitutionnel révèle que le président de cette cour, en somme, le président s'appelle Richard Ferrand, hein, c'est un ami d'Emmanuel Macron, et il a été nommé par lui, et il est clair que ce doit être Richard Ferrand, ami du président, nommé par lui, qui a poussé dans cette direction, car pour plusieurs raisons. D'abord parce que le chef de l'État veut avoir des amis un peu partout quand il terminera son mandat, mais surtout parce que il tient à son image de défenseur de l'écologie. Ça fait partie de sa théorie du « en même temps ». On fait du nucléaire, mais en même temps, on défend l'écologisme. Question d'image ou de communication. Donc, cette vraie raison qui n'apparaît évidemment pas dans l'arrêt du Conseil constitutionnel, cette vraie raison inavouée, je la trouve futile pour ma part. Comme ce que fait le chef de l'État, c'est souvent futile. Et puis, je la trouve aussi dépassée pour les raisons que je viens d'indiquer précédemment. Elle intervient à un moment où précisément l'alarmisme écologiste est, et c'est heureux, en nette perte de vitesse. Aussi, nous avons là une nouvelle illustration du travail de sabotage et d'obstruction que depuis longtemps le Conseil constitutionnel mène contre la volonté nationale. Qui nous gardera des gardiens de la loi qui ne font que la déformer ? Je pose la question, mais j'ai en même indiqué qu'il y avait des solutions et que donc nous sommes loin d'avoir perdu la partie sur les ZFE. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
C'était l'émission de Patrick Simon, maintenant revenons à celle de Thierry Lenz.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce lundi soir de la semaine A, si je puis dire. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu saluer mon compagnon du lundi soir, Patrick Simon, mais les ZFE sont une de ses spécialités et je suis très très content de voir qu'il suit bien ce dossier. Je lui signale en plus que parmi les 9 membres du Conseil constitutionnel, 3 d'entre eux avaient été mêlés à la décision de créer les ZFE, dont Jacqueline Gourault, qui était à l'époque, je crois, secrétaire d'État aux collectivités locales, et que la logique juridique et les règles de la magistrature auraient voulu que ces 3 personnes se déportent au moment de la décision, ce qu'elles n'ont pas fait. Je pense que ça mettra notre ami Patrick Simon de plus mauvaise humeur encore, mais il est toujours au grand large avec sa chronique, je pense qu'il en dormira quand même très bien. Alors, le moment est venu pour moi de vous présenter notre invité de ce soir. Bonsoir, Marie-Hélène Bellac.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, vous êtes dotée de tous les sacrements de la profession, le NS, l'agrégation, vous avez enseigné à l'université et dans le milieu scolaire, alors à la fois dans des établissements difficiles, mais dans des établissements un petit peu plus faciles, notamment à Paris. Vous êtes l'auteur ou l'autrice, comme on peut dire encore aujourd'hui, d'une œuvre considérable. D'abord comme éditeur, puisque vous avez dirigé des manuels d'histoire de Bordas pendant une 20aine d'années, jusqu'en 2007, mais aussi comme auteur avec, si j'ose dire, une bibliographie longue comme le bras, une 20aine d'ouvrages, un très grand nombre de collaborations à des ouvrages collectifs. En histoire, bien sûr, d'abord, on vous doit plusieurs études générales, dont en 2024, un ouvrage intitulé « La peur du peuple », qui est un peu une autre histoire de la Seconde République, ouvrage plusieurs fois primé, qui nous rappelait notamment les journées de juin 1848, lorsque la République, qui est certes bonne mère, l'a été un peu moins en réprimant des manifestations ouvrières très durement. Vous nous avez donné une histoire des animaux célèbres en 2015, et puis, j'ai toujours dit que je ne parlerai pas de Napoléon, mais quand même, cette excellente étude sur Napoléon à l'île d'Elbe, en 2011, d'autres encore, vous avez obtenu d'ailleurs, toujours dans un environnement napoléonien en 2016, le prix du jury de la Fondation Napoléon pour votre biographie d'Hortense de Beauharnais. Et là, nous entrons un peu dans ces femmes célèbres que vous avez étudiées. Alors, on vient de parler d'Hortense, Agatha Christie en 2022, Louise Michel en 2024. D'ailleurs, ces livres ont tous été primés, mais le dernier, Louise Michel, a été récompensé par l'Académie française. J'ajoute aussi, mais ça c'est parce que nous nous connaissons un peu en dehors de l'antenne, que vous avez aussi écrit beaucoup de livres sur la gastronomie, la cuisine, etc. et que vous ne vous contentez pas d'être, une cuisinière livresque, puisque de temps en temps, et même assez souvent, vous vous livrez à l'exercice des bons petits plats pour les amis, et je vous en remercie. Alors, je vous ai évidemment invité ce soir pour ce livre qui vient de paraître dans la collection de la Bibliothèque des Illustres, qui est une collection commune entre les éditions Perrin et la Bibliothèque nationale de France. George Sand, La passion de la vie. Le 8 juin prochain, ça fera 150 ans que George Sand a quitté ce monde. On va le voir tout au long de cette soirée. Ça a été évidemment un immense écrivain, mais aussi une femme passionnante. Je dois vous avouer que, pour préparer cette émission, évidemment, j'ai lu votre livre, quitte à être influencé, comme on peut dire, et c'est véritablement une femme que j'ai redécouverte, même que j'ai découverte sur bien des aspects, et qui est, un petit peu oublié aujourd'hui. D'ailleurs, vous le signalez d'entrée, George Sand, qui était très présente dans les programmes scolaires, en a un peu disparu. Enfin, il en reste quelques traces. Mais d'abord, je voudrais... est-ce que vous pouvez nous évaluer l'œuvre de George Sand?
L'œuvre de George Sand,
c'est,
oui.
Alors, j'ignorais que c'était aussi considérable.
Oui, alors, il y a plus de 70 romans, une 20aine de pièces de théâtre, mais il y a aussi l'histoire de ma vie, il y a aussi, et je dirais presque surtout, sa correspondance énorme. Pour donner une idée, dans la collection Garnier jaune, hein, édité par Lubin, il y a 25 volumes. Et la plupart de ces volumes font plus de 1000 pages. Donc, ça donne une idée de ce que cette femme a pu écrire. Sadeuf disait méchamment que c'était une vache à écrire. Effectivement, elle écrivait sans arrêt, sans cesse. Ouais. Et d'ailleurs, elle écrivait à ses amis à une époque d'ailleurs où c'était le moyen de communication, hein, il faut aussi penser à ça. Mais tous les soirs, après dîner, après la soirée, alors que ses amis, ses invités montaient se coucher, elle montait à sa table de travail avec ses plumes, son encre, et elle se mettait à écrire, et elle écrivait une grosse partie de la nuit, jusque vers 4-5 heures du matin, ce qui explique que très souvent, le lendemain, à l'heure du déjeuner, elle apparaissait tout endormie, enfin les yeux pas complètement en face des trous, et que le déjeuner ne se déroulait pas toujours avec elle. Voilà, parce qu'elle avait derrière toute cette nuit d'écriture.
Alors, sans entrer tout de suite dans le très vif du sujet, il faut voir aussi que c'est une correspondance qui n'est pas avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'on a les plus grands écrivains, les plus grands hommes politiques, les plus grands musiciens du 19e siècle.
Oui, alors elle écrit parce que tout simplement, elle a été amie avec des gens qui étaient des grands musiciens, des grands écrivains, des grands peintres, Delacroix, puisqu'on parle des peintres, évidemment Chopin qui a été son amant, mais aussi Liszt, mais aussi Musset, et puis des grands écrivains comme Balzac, comme Flaubert, avec lequel elle a entretenu dans la dernière partie de sa vie une correspondance extrêmement importante, comme Pauline Viardot, qui aujourd'hui est un nom qui nous échappe un peu, mais qui était une grande cantatrice à l'époque, comme Bocage, qui a été le patron, le directeur de l'Odéon, du théâtre de l'Odéon. Mais alors, je voudrais dire quand même que bien sûr, elle correspond avec des gens qui sont passés à la postérité, mais aussi avec sa famille. Hein, beaucoup de lettres, notamment quand elle est à Paris, elle écrit à son fils pratiquement quotidiennement. Hein. Et puis aussi à des gens, des personnes qu'on pourrait dire humbles, à des ouvriers, notamment à la période de sa vie où elle s'est beaucoup intéressée au socialisme, aux poètes ouvriers en particulier. Elle leur écrit, mais elle écrit aussi à leurs femmes, comment vont les enfants, merci pour le petit gâteau. Donc c'est vraiment une correspondance... tous azimuts, et alors bien qu'on ne doive pas parler de Napoléon, elle écrit aussi, bien sûr, à Louis-Napoléon Bonaparte, hein, qui devient Napoléon III. Donc vraiment, cette correspondance permet, c'est aussi, enfin moi, en tant qu'historienne, ce qui me passionne, c'est que George Sand, c'est aussi le 19e siècle. C'est toute la richesse fabuleuse de l'histoire, de la littérature du 19e siècle. En plus, bon, on va y venir, je ne veux pas trop commencer à bavarder parce que je suis très bavarde, donc je ne peux pas anticiper les questions.
Non, mais nous sommes là pour bavarder.
Mais elle a quand même, elle est née en 1804, et donc elle a pratiquement occupé tout le siècle, hein, depuis Napoléon. Elle a connu deux révolutions, 1830-1848, mais aussi la Commune, les monarchies, l'Empire, la République. Donc, elle a traversé complètement le siècle.
Oui, elle les a connues, elle s'y est un peu mêlée aussi.
Elle s'y est impliquée, on va voir ça. Oui, oui.
Tout à l'heure, vous nous disiez, c'est une grande dame ou grande femme du 19e siècle, et elle pourrait être une femme d'aujourd'hui, puisque... Vous nous révélez, puis vous résumez à un moment donné qu'elle fut féministe, elle a été démocrate, elle a été écologiste, elle était une éducatrice d'avant-garde, et même, nous dites-vous, le prophète des questions de genre. C'était, en fait, on a d'elle cette image, bien sûr, de la femme habillée en homme, éventuellement avec un cigare au bec, mais ça n'est pas que ça. Enfin, je veux dire que ça n'est que sa tenue de campagne, si l'on veut dire.
Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on a beaucoup parlé de cette tenue. En fait, c'est une tenue qu'elle a adoptée quand elle était adolescente, dans le Berry, qu'elle courait dans la campagne, c'était beaucoup plus pratique et ça lui permettait notamment de monter à cheval aussi à Califourchon, pas seulement en Amazone, comme le faisaient la plupart des femmes. Mais c'est une tenue qu'elle a aussi conservée à Paris quand elle allait au théâtre, parce qu'elle disait la robe traîne par terre, se salit dans le ruisseau parisien, alors que là, avec son pantalon et son chapeau, elle pouvait passer plus inaperçue. Et puis même, elle allait au théâtre au parterre où elle se fondait avec les hommes, ses amis. On ne la voyait pas beaucoup, mais ça, elle ne portait pas systématiquement cette tenue masculine. Elle pouvait être aussi extrêmement élégante. Alors, effectivement, on l'a caricaturée à partir de ça, et puis aussi à cause de son nom...
Allez, on y va tout de suite. Alors, pourquoi George Sand? Parce qu'elle s'appelle, en réalité...
Aurore Dupin... D'abord Aurore Dupin, ensuite Aurore Dudevant, voilà. Puisqu'elle a épousé Casimir Dudevant. Alors, pourquoi ce nom? Eh bien, parce que quand elle monte à Paris en 1830, enfin, début 1831... elle veut écrire, ça fait partie de ses ambitions. Et à l'époque, une femme ne saurait être publiée, sauf si elle écrit des ouvrages, je dirais, à l'eau de rose. Il y a une petite littérature à l'eau de rose, mais un grand écrivain ne peut pas être féminin. Je veux dire, c'est par nature. Hein, les hommes pensent que la femme est incapable de produire une véritable littérature. Et quand elle arrive à Paris, c'est pour rejoindre son amant, son jeune amant, qu'elle disait... fragile comme un colibri, enfin, elle dit de Jules Sandeau des paroles extraordinaires. Et donc, elle commence à écrire avec Jules Sandeau comme journaliste et elle signe d'abord du nom de Jules Sandeau. Alors après, il signe J. Sand. Et puis, ils écrivent notamment un premier roman, Rose et Blanche, qui a un certain succès, qui est signé J. Sand. Et puis, le deuxième, qui est Indiana, elle écrit toute seule. Donc, ni elle, ni d'ailleurs Sandeau n'estiment qu'ils doivent co-signer. Et l'éditeur dit, quand même, il faudrait garder ce Sand parce qu'il a une petite notoriété. Donc, ça va permettre de vendre le livre. Et donc, elle réfléchit, elle choisit comme prénom Georges. Georges sans S. Hein. Mm-hmm. Alors, Georges, pourquoi? Alors, on a dit parce qu'elle a dit. Parce que c'est comme ça qu'on désigne un paysan dans le Berry. C'est un Georges. Bon. Alors, après, on a cherché des explications, je dirais, plus littéraires, en parlant des Géorgiques de Virgile, en disant que c'était pour ça. Et puis aussi, on a dit qu'elle avait été au couvent des Dames Augustines quand elle était adolescente pendant 2 ans, et c'était un couvent de Dames Augustines anglaises. Or, en anglais, Georges peut être un prénom féminin. Donc, elle a connu des jeunes filles qui s'appelaient Georges. Bon, au-delà... Après, elle en joue. Alors d'abord, ça lui permet d'être publié et de vendre, parce qu'Indiana, c'est son premier succès, un énorme succès. Mais alors, surtout, elle va en jouer, parce qu'elle, elle dit tout le temps, bon, parce que tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est un homme, c'est une femme. Et elle dit, non, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, enfin, je suis un être. Et ça, c'est très important, parce qu'elle se positionne comme... un être, il y a pas, elle récuse finalement cette inégalité homme-femme et en se plaçant comme ça, comme un être, elle peut revendiquer des droits égaux pour les deux sexes.
Mmh. Alors écoutez, on va passer un tout petit peu sa vie, juste sa vie en revue. Elle naît à Paris donc le 1er juillet 1804 et elle n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire elle ne va pas être obligée, on va dire, de travailler très très dur pour avoir une vie assez confortable.
Non. Alors, son père est officier dans l'armée napoléonienne.
Et voilà.
Et en Italie, c'est là qu'il a rencontré sa mère. Alors, du côté du père, on peut se revendiquer d'origine aristocratique, même si c'est par la main gauche, disons. Ouais. Du côté de la mère, par contre, c'est, je dirais, presque le ruisseau parisien, hein, parce que la mère était une coureuse d'armée, comme a dit ensuite sa belle-mère. Et quand le père d'Aurore, puisqu'elle s'appelait Aurore à l'époque et non pas Georges, l'a rencontrée, elle était la maîtresse d'un riche fournisseur aux armées, donc en Italie. Et elle a quitté ce riche fournisseur qui était âgé pour ce bel officier fringant et qu'elle a épousé. Ils se sont mariés en cachette parce que le père de la petite Aurore, enfin celui qui allait être le père de la petite Aurore, et d'ailleurs ils se sont mariés un mois avant la naissance de la petite fille, n'osait pas avouer à sa mère qui il avait rencontré et qui il avait épousé. Ouais. Donc c'était une mésalliance. Une réconciliation s'est faite, même si c'est une réconciliation de façade. Hein, les deux femmes se sont toujours détestées. Et ce jeune officier, hein, Maurice, qui s'appelait déjà Maurice, parce que les prénoms reviennent souvent dans la famille, est parti cette fois-ci, toujours dans les armées napoléoniennes, mais en Espagne. Hein, donc il s'est retrouvé à Madrid avec Murat. Et donc la petite Aurore, quand même, a fréquenté Murat.
Hein, elle aurait pu croiser Victor Hugo.
Voilà, elle mettait déjà un pantalon. Elle était un pantalon pour aller. Voilà. Et puis ils sont rentrés en France et là, peu de temps après, ils sont arrivés à Nohant, qui était la maison de la grand-mère. Et quelques mois après, le père est mort d'une chute de cheval. D'ailleurs, on dit que c'était un très beau cheval que lui avait offert Murat. Bon. Et à ce moment-là, la mère et la grand-mère se sont déchirées parce que la grand-mère s'est dit qu'elle élèverait bien cette petite fille, qui finalement ressemblait beaucoup à son fils. Elle a convaincu la mère que la petite fille bénéficierait bien sûr d'une bien meilleure éducation à Nohant, grande maison aristocratique, avec belle bibliothèque, où on connaissait les bonnes manières. Et elle a achevé de convaincre la mère d'Aurore en lui versant une pension. Et elles ont carrément conclu un contrat sous sein privé. Évidemment, pour la petite fille, ça a été une déchirure épouvantable, vraiment, de quitter sa mère, qu'elle ne voyait plus que l'été. Et elle a donc été élevée à Nohant, même si elle allait de temps en temps à Paris, y compris avec sa grand-mère, et voir sa mère, voir sa demi-sœur, etc. Donc, dans cette maison que la grand-mère avait achetée en 1793, au moment où ça ne sentait pas bon du tout, elle a d'ailleurs été emprisonnée un moment pendant la Terreur. Donc, grosse maison plutôt que château, avec trois fermes, un grand domaine, donc en plein Berry. Donc, je disais maison plutôt bourgeoise, où il y avait une bibliothèque énorme. Et la petite fille a pu lire très tôt absolument tout. Voltaire, Diderot, enfin tout le XVIIIe siècle, mais même aussi la Bible, enfin toute la littérature qu'on fait trouver dans une grande maison comme ça, où elle a appris les bonnes manières aussi, et où elle a eu une enfance choyée, même si elle a toujours été malheureuse des accords entre, enfin même de la haine entre sa mère et sa grand-mère, et qu'à un moment, l'adolescente devenant difficile, la grand-mère vieillissant l'a mis donc 2 ans en pension au couvent des Dames Augustines anglaises, où là encore aussi elle a appris les belles manières, où elle a cru un moment qu'elle allait devenir religieuse, et puis non, finalement, la grand-mère l'a retirée. Donc c'est effectivement une enfance, disons, qui à la fois intéressante parce que elle apprend les bonnes manières, elle apprend, elle lit beaucoup, elle en plus, alors ça c'est très important, elle a celui qui avait enseigné déjà à son père, qui s'appelle Deschartres, qui lui apprend tout ce qu'on n'apprend pas à une fille, c'est-à-dire qu'elle apprend pas seulement le latin, mais les mathématiques, mais la géologie, elle apprend même à soigner les malades, parce qu'à la campagne, à l'époque, c'est important, elle apprend à tirer au revolver, elle monte à cheval, elle apprend la musique, sa grand-mère est une grande musicienne, et elle-même va devenir une grande musicienne. Donc, on peut dire que quand à 19 ans, à peu près, oui, 18-19 ans, sa grand-mère décède, c'est vraiment une jeune fille accomplie, extrêmement, qui a commencé à écrire d'ailleurs, déjà.
Oui, à l'âge de 12 ans.
Déjà, elle écrit, extrêmement intelligente, mais extrêmement aussi affirmée. Et déjà, je dirais que le personnage de George Sand, de Perse. C'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut.
Oui. On va dire tout de suite, ça n'est ni un garçon manqué, ni un bas-bleu, George Sand. C'est quand même une dame de son temps, mais qui, pour des raisons pratiques, à la fois adopte ce prénom masculin, monte à cheval en pantalon, etc. Mais elle est très distinguée et elle pénètre tous les milieux avec une grande facilité.
Oui, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'elle pénètre les milieux, je dirais, les plus aristocratiques et les plus mondains et les plus littéraires. Et aussi, parce que c'est aussi, quand elle arrive à Paris en 1830, c'est la vie de bohème. Mais aussi, elle est à l'aise avec les paysans. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, au moment de son décès, comment la foule du Berry se presse à l'église.
Ouais. D'ailleurs, vous avez prononcé le nom de Nohant, évidemment, qui est lié, associé, indissociable de George Sand. C'est quoi Nohant? C'est un château? Une grande maison?
C'est un domaine? C'est une grande maison avec un grand domaine, avec des fermes, avec donc qui lui rapporte de l'argent, bien sûr. Un potager, enfin, on peut vivre aussi en autarcie, même si elle l'a jamais fait, parce qu'elle fait cultiver quand même dans sa serre des ananas. Enfin, elle est très curieuse de tout. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre d'une autarcie comme ça a pu exister à cette époque. C'est un domaine qu'elle apprend à gérer, justement, quand elle est adolescente. Parce que Deschartres, sachant qu'un jour elle va en hériter, elle est la seule héritière, lui apprend comment gérer le domaine. Et finalement, quand elle épouse Casimir du Devant, sa mère a l'intelligence de faire en sorte que le contrat lui permette de conserver la propriété. C'est-à-dire en cas de séparation, ça lui reviendra, même si pour l'heure, c'est le mari qui gère. Et donc, effectivement, quand elle va se séparer de son époux, elle va reprendre la totalité de la gestion de Nohant. Et c'est vraiment sa maison, son port d'attache. C'est là où elle vit, c'est là où elle va mourir. Même si elle passe beaucoup de temps à Paris, c'est vraiment là où elle reçoit beaucoup de monde.
Alors elle reçoit tout le temps.
Elle reçoit tout le temps. Elle
on dort, on peut rester 15 jours. Jour, peut, enfin, voilà,
c'est... voilà, voilà le repas est mis tous les soirs. Il y a les rites. Ah oui, tout à fait.
Oui, c'est alors... Écoutez, on va, malheureusement, on n'a qu'une heure et demie, donc il faut qu'on avance un petit peu. Bon, évidemment, je vais aborder le sujet pour lequel elle a aussi beaucoup intéressé, c'est le sujet de cette femme qui, elle-même, dit qu'elle ne peut pas vivre sans amour. Alors, elle dit d'abord, il ne faut pas qu'une femme soit ignorante. Enfin, pourquoi faudrait-il qu'une femme soit ignorante? Donc, elle a très bonne éducation, etc. Et puis, elle a cette vie amoureuse qui est presque parfois, lorsqu'on vous lit, parce qu'on s'attache un peu à l'homme qui partage sa vie, et puis tout à coup, il disparaît, et puis un autre arrive, et puis elle a quand même...
elle enchaîne les amants.
Elle a le cœur large comme une péniche, pourrait-on dire.
Oui, mais en même temps, elle est extraordinaire, parce que, bon, alors... Elle a eu ce mari qu'elle a choisi, parce que là aussi, il faut pas, on raconte beaucoup, on dit comment elle a eu un mari qui l'a violée, etc. Elle a choisi son mari. D'ailleurs, elle a été très sensible au fait que Casimir lui a demandé sa main avant de la demander à sa mère. Bon. Mais en fait, elle avait aucun sentiment amoureux pour Casimir. Hein. Elle pensait qu'elle allait mener une vie tranquille, c'est un bon camarade avec qui elle riait. Bon, après, elle a eu cet enfant, ce Maurice, qu'elle a adulé. Et elle a... un moment, il a un sentiment qu'elle devenait amoureuse de son mari. Enfin, ça n'a pas duré longtemps parce que ben, le mari n'était pas, pas à la hauteur. Elle, c'était une intellectuelle, une femme, enfin une intellectuelle dans le bon sens du terme, hein, une femme qui aimait parler, débattre, faire de la musique. Et lui, bon, tout ça, il ne connaissait pas. Hein. D'ailleurs, à un moment, elle a essayé de lui faire signer un contrat, comme quoi il allait lire des livres et puis lui faire des comptes rendus. Bon, enfin, c'était... était complètement peine perdue. Donc, elle a fini... Bon, alors, la situation s'est détériorée entre eux, effectivement, avec des violences. Et elle a fini, donc, par... alors, d'abord, elle est tombée amoureuse d'un garçon dont elle s'est dit, ce sera un amour platonique, à Jason...
Aurélien de Cèze,
voilà. Hein, bon, on va discuter. Bon, donc, ça, évidemment, c'était pas ça. Enfin, avant, elle avait quand même eu à Jason de Grandsagne. Bon, et puis, surtout, elle a découvert l'amour-passion, avec le petit Jules Sandeau, qu'elle a rencontré chez des amis, qui étaient étudiants en droit à l'époque. Et à partir de là, elle est arrivée à Paris, et c'est vrai qu'elle enchaîne les amants. Mais elle a, je dirais, enfin, quand on la connaît bien, elle dit elle-même, oui, je n'ai pas voulu faire de mal, j'ai voulu, j'ai aimé, ben, quand j'ai quitté, c'est parce que j'aimais plus, ou parce que je pensais qu'un autre m'aimerait mieux, ou que je l'aimerais davantage. Vous voyez, il y a une certaine...
Oui, ces lettres de rupture sont toujours adorables.
Oui, oui.
On aurait aimé en recevoir de telles.
Elle aime les hommes plus jeunes qu'elle, donc elle continue à s'occuper d'eux, elle est leur mère en même temps. Bon, je pense quand même à Chopin, avec lequel elle a vécu 8 ans, et comme elle dit, elle a été réduite à l'abstinence, parce qu'il était malade, donc mais elle s'y est réduite quand même. Vous voyez.
Ah, et bon, puis il y a Musset aussi.
Oui, enfin, bah, il faut dire Musset. Quelque...
Alors, ça dure pas. Moi, je crois que ça avait duré plus longtemps que ça avec Musset.
Non, mais ça dure pas. C'est-à-dire que la période où ils vivent ensemble, notamment à Venise, ne dure pas longtemps. Il faut dire que cette épopée à Venise, ça a été horrible parce qu'elle a été malade, après, puis vraiment malade. Après, c'était lui, donc elle l'a veillé avec le bon docteur Pagallo.
Et voilà, et elle tombe dans les bras du docteur.
Elle est tombée dans les bras du docteur. Mais ça a duré en ce sens qu'ensuite, pendant près de 2 ans, ils se sont retrouvés, redéchirés. Un jour, elle lui fait parvenir une tête de mort avec les cheveux qu'elle a coupés dedans. Enfin, ça a été absolument terrible. Ouais. Et c'est vraiment l'amour romantique, l'amour à la Byron. Hein. C'est assez extraordinaire.
Hein, ouais, alors, bon, elle tombe amoureuse du médecin de Musset. Elle se sépare de son mari. Elle tombe amoureuse de son avocat.
Oui, absolument, tout de ça, Michel de Bourges.
Voilà, tout ça, ça se passe toujours dans le secteur, si l'on peut dire.
Michel de Bourges, en plus, l'a initié à la politique. Ouais, donc, plus. Donc,
alors, on parlera de sa carrière, ses opinions politiques tout à l'heure. Mais malgré tout ça, elle écrit quand même. C'est quand même... un écrivain, une écrivaine.
Ah enfin, oui, non, mais de toute façon,
elle écrit, oui, mais elle écrit comme elle respire.
Oui.
Je vous dis, à un moment donné, je crois que c'est La Mare au Diable où elle l'écrit en 4 jours.
Oui, oui, ah oui, elle écrit.
C'est extraordinaire.
Elle écrit, c'est ce que je disais, ouais, elle écrit toutes les nuits. D'ailleurs, ses amants doivent se plier à son rythme. Hein.
Ouais.
Ça a été un des problèmes avec Jules Sandeau, c'est qu'il n'était pas capable de suivre. Elle le trouvait paresseux.
Ouais. Ouais.
Alors, l'homme qu'elle a trouvé quand même qui était très bien pour elle, c'est le dernier. C'est Manceau, enfin, c'est un peu, on pense que oui, c'est le dernier, elle a peut-être eu une ou deux relations,
oui,
mais pas importantes, avec lequel elle a vécu 15 ans, qui est un ami de Maurice, qui était venu passer Noël à Nohant, et qui est devenu son amant, et Manceau lui taillait ses plumes, s'occupait d'elle, la choyait, et vraiment, ça a été l'amant pacifié, sans doute, hein. Pas le même amour fou qu'elle avait connu, bien sûr, avec Musset, mais qu'elle a profondément aimé.
Ouais. Est-ce qu'elle avait du succès à son époque?
Beaucoup de succès.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et d'ailleurs, très vite, elle s'est aperçue qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent avec ses livres qu'avec le domaine de Nohant. Mais il fallait l'entretenir. Donc, elle avait besoin de beaucoup d'argent, hein, parce qu'il fallait entretenir le domaine, les amis qui passaient, les voyages. Elle dépensait aussi beaucoup.
Oui, il y a toute une... Justement, la partie où nous décrivez un peu l'univers de Nohant, on a presque l'impression que si on y était arrivé, elle aurait dit « Mais restez dans dîner, quoi. »
Oui,
hein,
c'est
voilà.
Ouais,
ouais. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que je reçois Marie-Hélène Bellac, qui vient de publier dans la très très belle collection Bibliothèque des Illustres de Perrin et de la Bibliothèque Nationale, George Sand, La Passion de la Vie, véritablement La Passion de la Vie, à quelques jours du 150e anniversaire de la mort de George Sand, mais c'est un personnage tellement considérable au XIXe siècle qu'il fallait lui consacrer d'abord cet ouvrage magnifiquement illustré, mais vraiment magnifiquement illustré, et puis très très, comment dire, qui va vous faire vous intéresser à George Sand, si vous l'avez oublié depuis qu'on vous a obligé de lire La Mare au Diable quand vous étiez petit.
Quoi. C'est plus voilà, que La Mare au Diable.
Voilà, voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et justement, est-ce qu'elle était une... comment dire, est-ce qu'elle faisait très attention à ses contrats, à ses revenus livres
Oui, oui, elle était très attentive à ses contrats. Très vite, elle a pris l'habitude de négocier. D'ailleurs, à un moment, elle s'est fâchée avec Bulot, son éditeur. Elle a conclu des contrats avec d'autres, notamment ses ouvrages ont pu être édités, réédités dans plusieurs collections. Oui, oui, elle était extrêmement attentive, d'autant qu'elle voulait laisser à ses enfants, et particulièrement à son fils, je dirais, des revenus suffisants, et ça a été le cas.
Oui, oui, oui. Alors, ces livres, donc, sont... parfois considérés, on va dire, des romans champêtres, enfin, des petites choses gentilles, mais il y en a quand même qui ont fait des petits scandales, si je puis dire. Par exemple, Lélia, qui paraît en 1833.
Lélia, ça a été un énorme scandale. C'est un énorme scandale, parce que, alors, c'est vrai que c'est un livre qui est curieux, parce que c'est à la fois une histoire, c'est pas un roman, un écrit philosophique, un poème, une écriture extrêmement dense, violente, où elle raconte l'histoire d'une femme, Lélia, magnifique, et qui est devenue frigide. Et donc, qui ne peut pas répondre aux avances d'un poète, Stenio. Alors, tout ça va se terminer terriblement mal, parce que Stenio va se suicider, un de ses amis va l'étrangler. C'est un roman noir qui a fait dire, d'ailleurs... bon, c'est vrai que c'est un moment où elle est sans doute mal dans sa peau, d'ailleurs... C'est intéressant, elle a écrit une deuxième version de Lélia, quand elle allait mieux, voyez, parce que c'était trop noir. Mais ce roman a fait absolument scandale. Parce
on parle de
en
sexualité
plus, elle
féminine.
Voilà. En plus, elle décrivait carrément les scènes où elle se refusait. Elle se refusait. Elle était incapable de répondre aux avances de son amant. Donc, elle décrit des scènes dans le lit. Hein.
Ouais,
donc, à l'époque, c'était impensable. Impensable.
Ouais. Et c'est le roman de la séparation avec Sandeau.
Avec Sandeau, voilà, c'est pour ça, je pense qu'il est...
Est-ce qu'il y a de l'autobiographie derrière
il
tout ça
est partiellement autobiographique, mais je ne dirais pas, comme l'a dit André Mauroy, que du coup, George Sand était frigide, etc. C'est devenu... Ah, parce qu'on en est arrivé à ça. Non, bon, c'est un mauvais moment.
Oui,
voilà,
ça n'en a pas l'air, voilà, en tout cas, non, quand on connaît la suite.
Voilà, oui.
Chopin. Justement, Chopin, ça a été vraiment un des grands amours, parce qu'on peut pas, elle en a eu plusieurs de grands amours, mais...
Alors, un des grands amours, parce que... Alors, elle a été amoureuse de Chopin, mais j'irais presque plus encore de sa musique.
Ouais.
Voilà. plus encore de sa musique. Et il y a des scènes où elle décrit comment le soir, quand finalement tout le monde est parti se coucher, avant qu'elle monte, elle se mettait dans le coin, presque sous le piano, et jouait que pour elle. Et Chopin a pratiquement composé toute son œuvre à Nohant, presque toute son œuvre à Nohant. Donc, ils partageaient leur vie entre Nohant et Paris. Lui, il avait besoin d'être à Paris parce que c'était un musicien célèbre, il avait des élèves, il donnait des concerts. Elle, ce qu'elle aimait, c'était Nohant. Et puis après tout, il disait qu'il n'aimait pas la campagne, mais enfin, c'est quand même à Nohant qu'il composait. Et donc, ça a été... Alors, il était malade, tuberculose, c'est la grande maladie du 19e siècle. Ça s'est très mal terminé, en fait, très tristement terminé, autour de disputes à propos de la fille de George Sand, puisque George Sand a eu deux enfants, un garçon et une fille.
Solange,
voilà, avec laquelle elle ne s'est pas entendue du tout très vite, une adolescente difficile, qui a guiché Chopin, et puis il y a eu un problème de mariage, je ne vais pas rentrer dans les détails d'Aurore. Chopin protégeait un peu Solange, et donc c'est autour de ce mariage de Solange que s'est fait la rupture entre Sand et Chopin.
Ouais, elle disait que vous l'avez signalé tout à l'heure, mais Chopin c'était son troisième enfant.
C'était son troisième enfant, et oui, parce qu'il a été tellement malade, il a été tellement tuberculeux que véritablement, puisqu'à l'époque on ne disait pas qu'il était tuberculeux, mais que vraiment, et c'est pour ça qu'elle disait qu'elle n'avait plus d'amour, véritablement, parce qu'il était trop malade et puis qu'il fallait s'en occuper.
Oui, et finalement, les deux qu'on connaît le plus, Musset et Chopin, sont des espèces de météores dans sa vie amoureuse, parce qu'elle a eu des amours beaucoup plus stables, solides, tout au long de sa vie.
Sandeau, pas trop non. Elle a surtout le dernier.
Surtout
le dernier. En fait, c'est surtout Manceau, avec lequel elle a vécu 15 ans, et elle a vécu une relation moins passionnelle, où ils s'entendaient très très bien, et qu'elle a même suivi, parce que c'est quand même à Nohant, tout n'était pas rose tous les jours. Son fils a mis à la porte son amant, Manceau, parce Maurice était devenu jaloux de Manceau. Et il y a eu une nuit dramatique, parce qu'à un moment, Manceau a eu l'impression que il allait partir tout seul. Et puis non, elle a dit non, on part tous les deux. Et elle a quitté Nohant pour suivre Manceau. Ils ont acheté une petite maison à Palaiseau, où ils ont vécu peu de temps, parce que Manceau était lui aussi tuberculeux, lui aussi malade, et donc il est décédé.
Ouais. Alors, l'art, on pourra éventuellement reparler. Elle reçoit des sculpteurs, des musiciens, des chanteuses, Pauline Garcia, Viardot, vous l'avez signalé tout à l'heure. Mais bon, quand même, on le sait un peu pour ceux qui s'intéressent au Second Empire, il faut le dire, puisqu'il y a toujours la correspondance George Sand de Louis-Napoléon, mais en fait, c'est une républicaine, on va dire, une démocrate au moins, et on la classerait aujourd'hui à gauche,
socialiste.
Et alors, très vite, elle entre dans ce mouvement, alors sans être sur les barricades, mais enfin, dès 1830, elle comprend.
Alors c'est à partir de 1830, la révolution de 1830, qu'elle rentre en politique tout en disant « je ne suis... » Là, c'est drôle, parce qu'elle a un réflexe de femme. Elle dit « je ne suis pas capable de parler politique ». Et puis en fait, c'est surtout à partir de 1835, où elle rencontre donc Michel de Bourges, qui est son avocat qui la défend contre Casimir Dudevant pour qu'elle obtienne donc la séparation. Et Michel de Bourges est un socialiste qui est prêt à faire rougir du sang, le sang de la Seine, en assassinant les trop gros bourgeois. Bon. Donc là, elle se met à fréquenter tous les milieux socialistes. Elle s'y intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'elle lit. Et il ne faut pas oublier quand même que cette première moitié du 19e siècle, c'est la période de ce qu'on appelait les socialismes utopiques, c'est-à-dire qu'il y a une floraison de textes. Elle rencontre notamment Louis Blanc, qui va avoir un rôle très important sur l'organisation du travail. Bon, elle, le Drurolin, enfin, elle rencontre tout
le monde,
ce qu'on appellerait la gauche aujourd'hui. Et puis, quand la révolution 1848 éclate, alors là, elle se précipite à Paris, et là, elle est enthousiasmée par le fait que cette fois-ci, la République est proclamée, puisqu'en 1830, les Républicains avaient été écartés au profit de Louis-Philippe. Donc là, elle veut une bonne République. Et elle a d'ailleurs un passe, elle rencontre, elle va comme elle veut chez les membres du gouvernement. Elle s'occupe aussi à Nohant de mettre son fils comme maire, de faire proclamer la République. Elle convoque un certain nombre d'ouvriers, d'amis, en leur disant bah, « il faut que vous soyez là et qu'on voit le peuple qui agit ». Et puis elle est persuadée d'ailleurs que le peuple sera très long, hein, parce qu'il est très conservateur. Donc ça est, ouais, est très réaliste. C'est aussi un trait de caractère que je pense très important.
Oui, alors, je vous coupe, mais oui, exemple de... On l'a dit féministe,
oui,
et puis en fait, elle n'est pas pour le droit de vote des femmes.
Non, alors justement, alors oui, elle est, oui, oui,
ouais, tout à fait. Alors, ce paradoxe, parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un où on lisait le livre en même temps, et justement, c'est quelque chose qu'on peut ne pas comprendre.
Oui, ben parce que justement, c'est pour ça que je dis que c'est une réaliste, parce que effectivement, il y a une association féminine qui lui propose de présenter sa candidature, tout à fait théorique, puisqu'il y a le suffrage universel masculin est instauré en 1848, hein, on passe quand même de 248 000 électeurs à près de 9 millions, donc c'est quand même énorme. Mais l'esclavage est aboli, donc les anciens esclaves ont le droit de voter, mais pas les femmes. Et donc on lui propose quand même, symboliquement, de présenter sa candidature. Elle dit non, elle dit non, elle refuse, mais elle trouve ça vraiment, elle écarte d'un revers de main cette suggestion, et elle explique pourquoi. Elle explique qu'en fait, il faut d'abord faire évoluer le droit à l'intérieur du couple, que tant que la femme n'aura pas l'égalité civile, quoi, sera sous le code Napoléon, eh bien, elle sera incapable de voter par elle-même. Et donc, elle ne sera qu'en fait que voter ce que lui dira son mari. Et que donc, il faut d'abord l'égalité civile avant d'arriver au droit de vote. Voyez ? Et elle dit, un jour, il faut d'abord éduquer les femmes. Comme elle pense, après l'échec de la République, hein, en 48, qu'il faut éduquer le peuple. Bon, mais ça, c'est le maître mot, je dirais, du 19e siècle, hein, l'éducation. Ouais,
ouais. Elle ne craint pas qu'il tombe sous la coupe des curés, parce que, enfin, je pense, j'ai cru comprendre
bien
qu'elle
sûr,
ne les aime pas beaucoup.
Elle est très anticléricale.
Oui, oui, oui.
Elle est très anticléricale. Elle est très anticléricale depuis que le curé de Nohant a voulu lui faire avouer ses premiers amours. Elle a estimé que ça ne le regardait pas du tout. Et elle est devenue très anticléricale.
Ouais, ouais, ouais. Je lis juste une lettre, enfin non, même pas, un article qu'elle publie, alors là, 1844, un peu plus tard. « Le jour où nous nous sommes trouvés sans seigneur, sans abbé, sans dîme ni redevance, nous nous sommes tous imaginés que nous allions être libres et gaillards comme alouettes du champ. Nous nous sommes trompés, foi d'homme. Le pauvre est à la merci du riche, comme autrefois le faible était à la merci du fort. » Pardon. Donc, c'est quand même, ce sont des textes, alors, c'est du pur socialisme
utopique. Ah oui,
mais
du pur. Mais en 1848, elle participe au bulletin de la République, qui est le bulletin du ministère de l'Intérieur, qui est publié par Ledru-Rollin. Et il y a un numéro célèbre, entre guillemets, hein, c'est le 16 avril, puisqu'elle dit « Si l'Assemblée qui va être élue est conservatrice, eh bien, le peuple a le droit de se révolter. » Elle appelle à l'insurrection.
Oui. Et elle participe à des journaux, elle crée le fameux journal L'Éclaireur, dont on vient de parler, en Berry.
Oui, L'Éclaireur. Également, il y a La Cause du Peuple. Elle a compris...
Et La Cause du Peuple,
voilà,
extraordinaire.
Oui, ben, elle a compris combien le journal pouvait jouer un rôle important. En plus, il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, la plupart des romans, presque tous les grands écrivains, hein, c'est pas George Sand, sont publiés d'abord en feuilleton, dans les journaux, avant d'être publiés en livres reliés.
Vous qualifiez Nohant, à ce moment-là, de copère républicain. Je trouve ça très, très réussi, parce qu'on parle aussi un peu de Madame de Staël en ce moment.
Oui.
Donc, Voilà. Et ensuite, alors, elle va, s'adoucir un petit peu. Elle va se ramollir, on va dire.
Oui, si on veut. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est l'échec de la République, puisque finalement, Louis-Napoléon... Et qui rentre en France en septembre 48, est élu président de la République dès le mois de décembre 48, sur son nom, mais enfin aussi sur un programme. Bon. Et il va jouer extrêmement habilement. Pour moi, c'est un homme d'une intelligence fascinante, on l'oublie trop souvent, de façon à laisser les conservateurs faire le sale boulot, disons clairement, en éliminant les socialistes, et puis finalement à faire ce coup d'État, et puis à restaurer l'Empire en décembre 1852. Et alors, donc, quand elle voit que la République, il n'y aura pas de République, que la République est morte, elle est absolument désolée. Et puis elle dit, en parlant de Louis-Napoléon, après tout, alors je n'ai plus la phrase exacte en tête, hein, si un autre qu'on n'attendait pas est capable, à la place de la République d'améliorer le sort du peuple, pourquoi pas ? Mmh. Vous voyez, elle a un certain temps, une certaine indulgence, certaine attente, une attente qui va être déçue. Alors, elle rencontre Louis-Napoléon, elle obtient d'ailleurs de lui beaucoup d'indulgence pour ses amis qui ont été arrêtés ou incarcérés, mais elle va mettre très 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 longtemps à dire que finalement, elle s'est fait un peu avoir par, par Louis-Napoléon. Et elle dit d'ailleurs même, il y a une phrase, j'ai plus en tête, mais qu'après tout, c'est pas lui le fautif, c'est le peuple.
Oui.
C'est l'ignorance populaire.
Oui, alors ce qui est très frappant, c'est qu'elle, au début du règne impérial, entre le coup d'État et 1852, elle demande à le voir, il la reçoit tout de suite.
Ah oui, il la reçoit tout de suite.
C'est donc la preuve que c'est un grand personnage.
C'est un grand personnage. Alors, il lui avait d'ailleurs envoyé l'extinction du paupérisme quand il était incarcéré au Fort de Havre, et elle lui avait répondu qu'elle trouvait que le contenu était très bien, mais qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'aventure personnelle, que ça, elle s'en méfiait, etc. Mais elle lui réécrit à plusieurs reprises, elle écrit aussi à Morny, et puis aussi, alors, elle est très amie avec Plomplon.
Oui, avec Napoléon Jérôme, le fils de Jérôme Bonaparte.
Parce qu'il siège à gauche dans l'Assemblée en 1849, et qui est d'ailleurs, qui emmène son fils Maurice aux États-Unis, qui vient très souvent à Nohant. Vous voyez, on a quand même, à Nohant, c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est un lieu extraordinaire, le nombre de gens qui passent là-bas.
Chopin meurt en 48, donc ça correspond bien à cette révolution, les fameuses journées de juin. À brûle-pourpoint, comment est-ce qu'elle vit ces journées
mal,
de juin?
Très mal,
Vous nous rappelez ce que c'est en quelques
alors,
mots?
Oui, alors en juin 48, c'est le Paris, à la suite de, au moment de la révolution de 1848, des ateliers avaient été ouverts pour les chômeurs. Bon. Puis ces ateliers sont devenus très vite des endroits où il y avait des gens qui travaillaient et qui ne faisaient rien. Donc le gouvernement a décidé de les fermer. Et le Paris ouvrier s'est levé à l'annonce de la fermeture et pendant 3 jours, il a été massacré. Il y a 2 grands massacres du Paris ouvrier au XIXe siècle. Ce sont les journées de juin 48 et la Commune.
Donc vous avez... Rappelons que vous avez publié un livre sur juin 48, la Seconde République,
entre autres,
et puis un livre sur Louise Michel, le temps à la fin de l'émission, on en dira quelques mots, parce que là aussi, ce sont des personnages qui ont une réputation, point. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on les connaît, on a l'impression, par exemple, Georges Sand, on la voit en costume d'homme avec un cigare. Pas très jolie, alors que les portraits de jeunesse montrent qu'elle est quand même assez charmante.
Avait très beaux yeux.
Voilà, et puis
les hommes étaient fascinés par ses yeux.
Et puis elle aurait un succès fou aujourd'hui parce qu'elle est légèrement basanée. Oui. Enfin, elle est presque exotique, exotique du Berry, mais quand même. Alors, pendant cette période du Second Empire, elle va passer beaucoup, beaucoup de temps à Nohant. Oui. C'est vraiment la grande époque de Nohant. Avec le théâtre de marionnettes. Enfin, est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que, redisons toujours, c'est un peu difficile de parler d'un écrivain sans dire qu'il écrit.
Oui.
Pendant ce temps-là, elle écrit, elle publie.
Et alors, elle n'écrit pas que des romans. En fait, elle avait écrit une première pièce de théâtre qui n'avait pas marché. Puis au moment de la Révolution de 1848, le gouvernement provisoire lui a demandé justement d'écrire une pièce éducative qui a marché. Et là, elle s'est dit, je vais me remettre au théâtre. Et donc, effectivement, elle va adapter ou écrire une vingtaine de pièces de théâtre. Et à Nohant, Nohant devient le laboratoire où elle essaye ses pièces de théâtre. Alors, à Nohant, il faut savoir qu'elle aménage une partie, on voit toujours, d'ailleurs, quand on visite la maison de Nohant, il y a le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre des acteurs vivants, où on peut jouer les pièces de théâtre qu'elle écrit, et puis le théâtre des marionnettes, parce que son fils Maurice était un fanatique de marionnettes. Et donc, on passait les soirées à coudre, à fabriquer les marionnettes, à coudre les robes ou les costumes et à inventer les représentations.
Et si vous voulez, on retourne à Nohant tout à l'heure, mais nous avons une espèce de tradition, une tradition tellement nécessaire à Radio Courtoisie, c'est de vous passer à peu près à ce moment-là de l'émission une petite annonce qu'Axel va nous faire écouter.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Thank you.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes de retour, mais enfin, on n'était pas partis très longtemps non plus. Hein. Je reçois ce soir Marie-Hélène Bellac, historienne, qui publie ces jours-ci Georges Sand, La passion de la vie, chez Perrin Bibliothèque nationale de France, dans la très belle collection, et j'ajouterai très belle et très bon marché, collection Bibliothèque des Illustres, extrêmement illustrée avec des documents qui proviennent de la Bibliothèque nationale de France. Ça coûte 25 euros. Alors vous allez me dire, évidemment, 25 euros c'est cher, mais aujourd'hui les livres sont tous très chers. Peut-être qu'un jour on recevra ici un éditeur pour lui faire parler de ce qui va et ne va pas dans l'édition, mais ça n'est pas notre sujet, encore que nous parlons d'édition au 19e siècle.
Mais là il y a une couverture rigide, un très beau papier. Beaucoup de documents. En fait, c'est le prix d'un ouvrage normal, voilà. Alors qu'on a là un ouvrage presque de beaux-arts.
Voilà, et on voit l'écriture de Georges Sand, il y a quelques images de Nohant, il y a son entourage, ses enfants, en fait, etc. Tout ça est très réussi. Alors, pardon, revenons au théâtre. Est-ce qu'elle a eu du succès au théâtre? Est-ce que ses pièces ont marché?
Oui, elle a eu plus ou moins de succès. Certaines pièces ont marché mieux que d'autres. La pièce qui a le mieux marché, je crois que c'est 1860, c'est le Marquis de Villemer, où là d'ailleurs l'empereur était présent avec son épouse, les ministres. À l'Odéon, la place a été envahie par les étudiants qui l'ont acclamée, qui l'ont ramenée chez elle en lui faisant cortège. Donc, elle a eu quelques très, très beaux succès. Alors, en fait, ce qu'elle aimait dans le théâtre, je crois que ce n'était pas seulement l'écriture de la pièce, c'était aussi tout ce qui était autour. Parce que donc, comme je disais, à Nohant, elle expérimentait ses pièces. C'est-à-dire qu'elle les faisait jouer par des amateurs, par elle-même d'ailleurs, parfois. Un jour, elle tient le rôle de la jeune première, parce qu'il n'y avait personne d'autre, donc elle le fait. Et donc, elle invitait les amis qui étaient là, il y avait parfois des gens des environs qui joignaient, et donc, on faisait représentation théâtrale, mais très tard, jusqu'à 2h du matin, après on servait un souper, et puis alors, après, une fois que la pièce était rodée, elle montait à Paris, avant même pour les représentations, pour les répétitions. Donc là, elle était extrêmement active, elle allait aux répétitions, elle faisait aussi ses courses, elle voyait plein de monde, elle allait elle-même au théâtre parce qu'elle adorait le théâtre. Et puis, après, elle était là le jour de la première, et puis après, elle rentre à Nohant. Donc c'était vraiment une grande, grande aventure à chaque fois.
Elle a même été jouée à la Comédie française en 1848.
Voilà. Donc elle était... c'était très important pour elle. Pendant une partie de sa vie, disons la deuxième partie de sa vie, alors elle continuait à écrire des romans, mais ça a été vraiment très important.
Ouais. Oui. Alors, vous nous parliez du théâtre de marionnettes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut visiter Nohant.
Oui.
Qu'on voit cette pièce, enfin, j'imagine qu'elle a été réduite par rapport à ce que devait être l'endroit des représentations à ce moment-là.
Oui, pas tellement. En fait, on pouvait mettre une soixantaine de personnes, de spectateurs, assez serré. Il faut quand même aussi dire qu'au XIXe siècle, dans les grandes maisons en province, et plutôt les maisons de la noblesse, on avait des théâtres amateurs. C'était quelque chose qui est très en vogue. Et on estime que le théâtre de Nohant était sans doute le plus beau théâtre de l'époque, le plus beau théâtre amateur de l'époque, avec des décors, avec des coulisses, etc. Et alors, donc, il y avait d'un côté, si on est en face, on se tourne selon, on orientait d'une manière ou d'une autre les spectateurs. Il y avait donc le théâtre des acteurs vivants, et puis il y avait le théâtre des marionnettes. Alors, le théâtre des marionnettes, ça a commencé à l'époque d'ailleurs où Chopin était encore à Nohant, et donc au début, c'était un théâtre qu'on faisait, on s'amusait derrière deux chaises. On mettait un espèce de petit cache et puis on agitait des petites marionnettes qui étaient faites tout simplement avec du bois, un bois tendre. Et c'est son fils Maurice qui était extrêmement féru et qui est devenu un marionnettiste très reconnu. Même aujourd'hui, encore dans le monde de la marionnette, il est considéré comme quelqu'un d'extrêmement capable et important. Donc, progressivement, ce théâtre des marionnettes s'est enrichi. Alors, très souvent, on se contentait d'écrire un début de texte, et puis à partir de là, on pouvait improviser, ou tout le monde donnait son avis. Et puis, il fallait faire les costumes. Et puis, quand on avait installé tout ça, bah, on invitait les gens environnants. Et puis, pareil, on faisait le spectacle de marionnettes. Mais à Nohant, il y a beaucoup de marionnettes qui ont été conservées. Hein, ouais, beaucoup. Ouais. Hein. C'est absolument magnifique. C'est très, très, très intéressant à voir. Et elle a même préfacé un livre de son fils sur les marionnettes.
Ouais. Et alors les sciences aussi, alors là on est étonné, les grands scientifiques de l'époque.
Oui, comme Geoffroy de Saint-Hilaire.
Geoffroy de Saint-Hilaire,
par exemple, Geoffroy de Saint-Hilaire.
Que nous aimons beaucoup à la Fondation Napoléon,
oui,
puisque
nous sommes
rue Geoffroy Saint-Hilaire.
Oui, oui. Alors effectivement, parce que donc d'abord elle s'intéresse à la nature, elle a été élevée dans la nature, donc elle a toujours jardiné. Hein, et puis elle a fait des petits jardins pour elle, ben, quand elle était jeune, j'irais vers 10-12 ans, qu'elle avait de gros soucis parce qu'il y avait sa mère, sa grand-mère, elle était malheureuse. Alors elle s'était inventée une sorte de dieu qui était ni un dieu ni une déesse, qui s'appelait Corambé. Et alors au fond d'un bois, mais bien caché, elle avait installé un autel et elle lui apportait des offrandes. Elle ouvrait des petites boîtes dans lesquelles elle mettait par exemple un insecte et elle lui rendait la liberté. Parce que Corambé, c'était le dieu de la liberté. Voilà, hein, donc elle a toujours... aimer la nature, elle s'est toujours intéressée à la nature, et de là, elle ne s'est pas intéressée seulement, je dirais, au jardinage ou au potager, mais elle s'est intéressée à la géologie, elle s'est intéressée aussi beaucoup à tous les animaux. Il y avait par exemple, il y avait toutes sortes d'animaux, d'oiseaux. Alors les oiseaux, elle aimait beaucoup les oiseaux, mais elle avait même une tortue, et elle disait que c'était le seul animal avec lequel elle n'avait jamais réussi à communiquer.
Évidemment.
La tortue, c'était le seul. Tous les autres, ça marchait, mais pas la tortue. Donc beaucoup d'animaux à Nohant toujours. Et puis les papillons, parce que son fils était un fervent collectionneur de papillons. Donc il y avait tout un certain nombre de rites pour notamment capturer les papillons, notamment ce qu'on appelait la chasse à la mielée. On mettait du miel sur les troncs d'arbres pour capturer. Donc, on capturait les chenilles. Il fallait ensuite les laisser éclore. Et elle a d'ailleurs, c'est pareil, son fils a publié un énorme livre sur les papillons qu'elle a préfacé. Elle l'a beaucoup aidé. Donc, elle connaissait très, très, très bien les papillons. Et à un moment, à l'époque de Mansot a acheté... pas très loin de Nohant, ça doit être à une trentaine de kilomètres de Nohant, dans un village qui s'appelle Gargilès, qui est un très joli village, une maison très très modeste, hein, c'était un bout de maison. Là, alors elle disait, c'était tout petit comme un bateau, c'est-à-dire que tout avait été étudié pour qu'ils puissent mettre leurs verres, leurs affaires. C'était tout petit, ils lui faisaient cuire l'omelette aux écrevisses, enfin... Et ils allaient, pareil, chercher les plantes rares, les cailloux. Donc, en fait, elle connaissait très, très, très bien toutes les sciences de la nature. Donc, elle a effectivement beaucoup correspondu avec Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, elle allait, quand elle était à Paris, voir la ménagerie, hein, bien sûr. Elle s'est passionnée au point d'en arriver, évidemment, je dirais, c'est naturel, d'apprendre la défense de la nature. Donc, on a pu dire qu'elle avait été une écologiste avant l'heure. Et c'est vrai que j'ai dû en citer des passages, ouais. Mais elle écrit notamment une lettre pour prendre... Enfin, c'est plus une lettre, c'est un article qui doit faire près de 14 pages dans une revue qui s'appelle Le Temps, pour prendre la défense de la forêt de Fontainebleau à une époque, c'est juste après la guerre de 1870 contre la Prusse, où il était question de remettre en coupe une partie de la forêt. Tout simplement, l'État avait besoin d'argent, donc il vendait... une partie de la forêt pour la mettre en coupe. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'elle explique bien le lien qui existe entre l'homme et la nature et comment, en fait, l'homme et la nature sont en symbiose et que si l'homme détruit la nature, lui-même se détruira. Donc, il y a vraiment des textes. Ce n'est pas seulement l'amour de la nature, c'est déjà une vision d'écologiste.
C'est une écologiste un peu... tendre avec son public, j'imagine, elle ne nous donnerait pas des coups de bâton.
Ah pour oui,
que...
non, mais Georges...
Revenons aux ZFE de notre
ami Patrick. C'est pour ça que je dis que Georges Sand, c'est une femme qui a des convictions, mais c'est en même temps une femme ouverte, ouais. Une femme de consensus, une femme qui est prête à écouter, hein, vous voyez, qui n'est pas du tout, c'est pas du tout une femme de clivage.
C'est ça.
C'est pour ça aussi que c'est la grande femme, hein, quand même. Hugo a dit c'est la grande
femme. Oui. Alors, passez-moi l'expression, je ne sais pas si elle est tout à fait indiquée, mais je l'ai trouvée très féminine.
Oui,
C'est-à-dire le contraire de ce de l'image qu'on donne d'elle.
Parce qu'elle est maternelle aussi.
Oui,
je
voilà.
Je pense que ça y contribue.
Oui, et puis en même temps, justement, cet amour de la nature a quelque chose de très touchant. Alors, je ne dis pas que les femmes sont faites pour aller se promener dans les champs, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais elle est... on le voit même d'ailleurs dans ses amours, elle est d'une tendresse... jusqu'au moment final, elle est très tendre, mais les lettres d'adieu...
Regardez, quand elle quitte Jules Sandeau, après, elle s'en inquiète, parce qu'elle sait qu'il est très très mal. Demande à un ami de s'en occuper, de s'occuper du petit Jules.
Oui, je ne sais plus à qui elle écrit. Peut-être c'est Sandeau, mais elle écrit quelque chose comme « Nous allons nous quitter, mais en fait, nous ne nous quitterons jamais, parce qu'on restera toujours en contact, etc. » Enfin, c'est très très belle lettre d'adieu. Et puis, il y a les romans de Nohant, ce qu'on a appelé les romans champêtres, qui sont d'ailleurs, c'est un peu utilisé aujourd'hui, c'est péjoratif, ça ne l'était pas à l'époque.
Bien sûr, ça a fait son grand succès.
La mare au diable, la petite fanette, les maîtres sonneurs, 24 romans entre 1848 et 1864.
Oui,
alors
en fait, il y a trois périodes. Il y a les premiers romans, c'est les romans féministes. Là, ce sont les romans où elle prend la défense des femmes malheureuses en mariage, où elle milite pour l'égalité de l'homme et de la femme. C'est gros, là. Bon, ça ne veut pas dire que le thème disparaît après. Hein. Mais disons que les premiers romans sont vraiment axés là-dessus dans les années 30. Après, il y a les romans qu'elle dit elle-même socialistes. Alors là où elle prône même dans Le péché de Monsieur Antoine, à la fin, finalement, tout finit bien parce qu'ils vont créer une sorte de communauté qui ressemble à une communauté... C'est pas un phalanstère, mais il y a un aspect communiste. D'ailleurs, elle a une conception du communisme qui est bien à elle. Hein. Pour elle, c'est pas quelque chose de violent, hein, pas du tout. Hein. Pour elle, le communisme, c'est la communauté de bien dans laquelle tout le monde sera heureux, où ce sera vraiment un vrai paradis. Quoi. Et d'ailleurs, à un moment, elle a investi une partie de son argent pour aider Pierre Leroux, qui avait à Boussac créé comme ça une sorte de communauté. Bon, au bout d'un moment, elle a arrêté parce qu'elle a dit « Moi aussi, j'ai besoin de mon argent, je ne peux pas le donner tout le temps aux autres. Hein. »
Ouais.
Donc, en fait, c'est sa deuxième période de roman. Et puis après, il y a effectivement les romans champêtres et puis les contes aussi pour ses petites filles qui ont beaucoup de succès. D'ailleurs, certains de ses amis qui avaient... ils ont souffert des romans socialistes, disent « Bon, ça va, maintenant, elle revient quand même à quelque chose de raisonnable. »
Qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui d'elle? Qu'est-ce qui reste d'abord? Qu'est-ce qui est disponible?
Tout est disponible.
L'éditeur, c'est Gallimard.
C'est l'histoire de ma vie. Non, on peut trouver tout ce qu'on veut.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? Oui, alors c'est compliqué parce que moi j'aime beaucoup Consuelo.
Oui.
Consuelo, bon, alors c'est un gros livre, hein, il fait plus de 1000 pages, mais. J'irais presque, même si on n'arrive pas à lire jusqu'au bout, ça vaut le coup de le lire au moins dans ses deux tiers, parce que c'est l'histoire d'une musicienne. Elle a pris beaucoup de Pauline Viardot, d'ailleurs, dans le personnage de Consuelo, d'une musicienne à Venise, dans ses écoles, vous savez, de musique. Ça se passe ensuite dans l'Europe de l'Est. Elle est amoureuse. Enfin, je trouve que c'est un superbe roman. Enfin, on peut lire Horace. Alors là, c'est... Ouais. Socialiste, le péché de Monsieur Antoine aussi.
Tout ce qu'on veut. Alors, le projet d'histoire de ma vie, est-ce que c'est de la prétention? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est des.
Alors, histoire de ma vie. Alors, histoire de ma vie, c'est très intéressant, mais il faut savoir que la première partie, même une grosse moitié, l'histoire de ma vie raconte plutôt l'histoire de ses ancêtres.
Hein.
Et donc, c'est plutôt. Un ouvrage, je dirais, historique. Et puis ensuite, elle passe à sa vie, en n'en disant évidemment pas tout. Donc, effectivement, on peut lire aussi l'histoire de ma vie, mais à mon avis, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Bon, on peut lire, un livre qu'on peut lire qui est très, très beau, c'est Elle et lui. C'est une réponse à Musset. C'est la façon dont elle a vécu son amour avec Musset.
Il n'y a pas lui et elle pour lui répondre.
Oui, mais lui et elle, non, c'est le contraire. Il y avait lui et elle qui avait été écrit par le frère de Musset et elle répond avec elle et lui.
Oui,
alors là, si on veut lire un beau roman romantique, en plus, ce n'est pas très long, il faut lire Elle et lui.
Bon,
voilà, on a trouvé.
Des bons conseils de lecture. Alors, je voudrais qu'on termine avec Nohant, parce que Nohant, ça existe encore. Ça peut être visité. J'imagine que vous avez dû y passer beaucoup de temps. D'abord, c'est où et on y va comment?
C'est dans l'Indre, on va à Châteauroux.
Voilà.
Et puis après, il vaut mieux prendre une voiture. Enfin, c'est pas d'un accès.
Non, ben, c'est la campagne.
Oui, c'est la campagne. Bon, c'est plus facile qu'avant. D'ailleurs, au fur et à mesure, au début, quand on voulait aller à Nohant, c'était 3 jours. Et puis après, il y a eu le train. C'est devenu beaucoup plus facile d'accès au fur et à mesure que les années se sont, de Georges Sand ont passé. Ça a été très, très bien restauré. Il faut
ça
dire que la petite fille
à l'État,
la petite fille de Georges Sand a eu la bonne idée de le léguer à l'État. Et ça a été extrêmement bien restauré. Il y a beaucoup d'activités. Donc vraiment, ça mérite d'aller à Nohant. Il faut aussi aller à Gargilès. Alors Gargilès, c'est tout petit, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais le site est tellement magnifique que vraiment, ça vaut le coup. Et puis, il faut savoir quand même, cette région, il y a beaucoup de vieux châteaux, hein, de châteaux du XIIe, XIIIe siècle, qui sont assez impressionnants. Oui, c'est une belle région.
Donc, on fait une excursion et on s'arrête à Nohant.
Oui, on fait une excursion. Oui, c'est et là, il va y avoir les journées Chopin. Hein, commence avec.
Alors, est-ce qu'ils ont prévu des choses pour le 150e anniversaire de la mort de Georges Sand?
Notamment, il y a eu des conférences. Il y a beaucoup autour de Chopin, surtout de concerts.
Ouais. Et alors, elle meurt de quoi?
Eh bien, elle meurt apparemment d'une occlusion.
Voilà,
elle a le diable
en elle.
Elle meurt d'une occlusion intestinale. Elle a toujours eu des problèmes, mais comme elle disait, bon, à part ça, tout le reste va bien, ma tête va bien, donc c'est l'essentiel. Mais elle a sans doute énormément souffert dans les derniers jours de sa vie.
Oui, oui. Et ses obsèques sont
À Nohant. Ah oui, elle est enterrée à Nohant.
Ça tombe d'ailleurs à côté de la maison,
absolument,
si je me rappelle
tout
bien.
Tout à fait, comme celle de sa petite fille Nini. Donc là, c'est un cimetière... C'est la famille.
Oui. Alors, vous racontez qu'à l'enterrement, on lit un texte qu'a envoyé Victor Hugo.
Oui.
Parce que ces deux, on va dire à l'époque, ces deux géants de la littérature ne se sont jamais rencontrés. Et alors que Victor Hugo, lui aussi, recevait quand même assez facilement
alors
son avenue.
Elle l'aimait à moitié, hein. Elle l'aimait pas trop.
Bon, mais en tout cas, il fait un texte magnifique pour lui rendre hommage. Et donc, l'enterrement de Georges Sand à Nohant. Donc, on trouve ce texte dans le livre de Marie-Hélène Bellac, Georges Sand, La passion de la vie, chez Perrin et à la Bibliothèque nationale de France. Que sont devenus les enfants? Est-ce qu'il y a aujourd'hui,
M.
Sand ou Mme Sand?
Non. Enfin, il y a, et ce n'est pas vraiment des enfants, c'est un enfant adopté. Voilà.
D'accord. Parce que Maurice et Solange...
Voilà, il y a Maurice et Solange... Donc, les enfants de Solange sont morts, d'ailleurs. Il y a une première petite fille qui est morte tout de suite. Ensuite, il y a une deuxième dont Georges Sand s'est occupé, qui a passé Nini, qui a passé un peu de temps à Nohant. Donc, justement, on lui faisait un jardin avec une fontaine. Et puis, Manceau avait mis un jet d'eau. Enfin, chercher des pierres à l'église de Vic pour que ce soit plus joli, qu'il y ait une espèce de rocaille, etc. Et puis, il y a Maurice qui a eu deux filles, alors là, qui ont été des petites filles de Georges Sand, dont elle s'est beaucoup occupée dans la dernière partie de sa vie. C'est pour elle qu'elle a écrit notamment des contes. Et donc, ces petites filles, il y en a eu une qui est décédée sans
postérité. Ouais.
Et puis l'autre, en fait, qui a adopté un garçon, mais enfin, elle a donné... L'essentiel, de toute façon, avait été vendu. Maurice a vendu beaucoup et Solange ont vendu beaucoup pour vivre.
C'est une de ses filles qui est morte en 1961,
voilà,
c'est ça
celle qui a c'est celle qui a donné, c'est une petite fille, qui a donné la maison de Nohant.
Très, très tardif, en fait. Elle a vécu assez longtemps. Et elle a connu sa grand-mère.
Oui.
Alors, écoutez, on se résume. On avait commencé par... vous aviez défini Georges Sand non pas la conclusion, mais dans les dernières pages de votre livre. Alors, féministe, vous me répondez rapidement. Alors, elle l'est, elle l'est pas?
Non, elle est féministe, mais c'est pas une féministe vindicative qui est contre les hommes.
Voilà.
Elle veut que l'homme et la femme soient égaux, mais elle ne combat pas les hommes. Et elle n'est pas contre le mariage, même si elle montre des mariages horribles dans ses romans. Ouais. Elle est contre le mariage arrangé où la femme est malheureuse, mais un mariage d'amour, elle est pour.
Bon, voilà, donc je rassure notre auditeur Denis qui me posait une question avec beaucoup d'humour tout à l'heure en me demandant si elle était une devancière de Sandrine Rousseau.
Non, pas du tout. Et je me suis même permise de dire l'autre jour, après je me suis dit, je me suis peut-être engagée un peu loin, ce n'est pas une féministe à la sauce MeToo. Et je me suis dit, oh là là, Marie.
Vous avez très bien fait ici, vous êtes sur Radio Courtoisie.
Oui, si je peux le dire, mais c'est... peut-être que tu n'aurais pas dû dire ça.
Écoutez, ici, on peut dire beaucoup de choses, alors pas n'importe quoi, mais on peut dire beaucoup de choses, et puis après tout, ceux qui en seraient blessés sont ceux qui ne veulent pas débattre.
Non, mais elle est féministe, mais elle n'est pas contre les hommes. Voilà.
Bon. Voilà. Elle est démocrate ?
Ah oui, elle est démocrate. Elle est pour une république, une bonne république, comme elle dit. C'est-à-dire, elle veut l'égalité entre les hommes, elle veut la justice. Et elle est aussi pour la fraternité. Mmh. Et elle en donne elle-même l'exemple.
Alors, elle est écologiste ?
Oui, elle est écologiste, on l'a dit tout à l'heure, en fait. Elle est écologiste avant la lettre, mais là aussi, sans violence. Elle pense qu'elle a bien compris le rôle que l'homme avait, le rapport entre l'homme et la nature, et la nécessité de préserver la nature.
Oui, elle était plus pour une réconciliation que pour une séparation.
Voilà, exactement.
Alors, éducatrice d'avant-garde. Alors ça c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça.
Oui, parce qu'en fait, elle a surtout, elle s'est occupée d'élever ses enfants, même si elle a donné des précepteurs à ses enfants, elle n'avait pas le temps, de toute façon. Mais quand même, elle a beaucoup appris à ses enfants, et notamment à Maurice. Surtout, elle s'est beaucoup occupée de Maurice, elle lui apprendre l'histoire telle qu'elle la voyait, notamment de lui enseigner que la Révolution était le début de tout. Et elle lui disait surtout, ne dis pas ça à ton père, parce qu'il ne serait pas content.
Ouais.
Donc, et surtout, c'est pour ses petites filles qu'elle s'est occupée de leur apprendre à lire, à écrire, la littérature. Elle a même écrit elle-même un petit ouvrage pour expliquer. Donc elle est pour une éducation totale, ce qui est très à la mode, Ce qui est au 19e siècle, c'est aussi les socialistes, Louise Michel, par exemple, aussi pour ce type d'éducation.
On va en dire deux mots, on a encore un tout petit peu de temps, on va parler de Louise tout à l'heure. Et alors, prophète des questions de genre. Alors ça, en quoi elle l'est ? Et en quoi aujourd'hui, finalement, on devrait envoyer les 90 volumes de George Sand à ceux qui auraient besoin d'en lire. Elle a eu cette prescience du féminisme, du wokisme.
Oui, mais elle estime que c'est presque, je vais dire, un faux combat. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est pour une réconciliation de l'homme et de la femme. Qui sont tous les deux, c'est pour ça qu'elle aime le mot « être », qu'elle dit « je suis un être », parce qu'au fond, la nature a fait des êtres qui ont tous les mêmes droits, qui doivent tous avoir les mêmes capacités, ce qui ne veut pas dire qu'elle nie la différence entre l'homme et la femme, mais pour elle, la question ne se pose pas en question d'antagonisme. Voilà.
Ouais. Alors... Panthéon ou pas Panthéon pour Georges Sand vous avez le droit aussi de demander qu'on la mette au Panthéon.
J'ai signé la pétition pour qu'on la mette au Panthéon, sans grande illusion sur mon pouvoir. Mais enfin, c'est vrai, on dit la patrie reconnaissante, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ouais. Elle, comme Victor Hugo a dit, la grande femme, la patrie reconnaissante. En plus, je vais vous dire honnêtement, je trouve que dans notre période actuelle de clivage, de problèmes, de difficultés, c'est une femme qui défend des idées saines, actuelles, parce que l'égalité homme-femme, la démocratie, la justice, l'intérêt pour les pauvres, l'intérêt pour la nature, je veux dire, ce sont vraiment des combats actuels, et elle les défend avec un certain bon sens, une raison, je trouve que ça ferait du bien. Ouais. Ça ferait du bien de panthéoniser quelqu'un comme ça.
Bon, voilà. Écoutez, alors vous allez tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous en convaincre en lisant le livre de Marie-Hélène Bellac, George Sand, La passion de la vie. Vous voyez que même sa biographe a aussi beaucoup de passion. C'est paru chez Perrin Bibliothèque Nationale dans la collection, la magnifique collection qui s'appelle Bibliothèque des Illustres, où il y a déjà eu une demi-douzaine ou une douzaine d'ouvrages publiés sur les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire de France et peut-être un jour de l'histoire mondiale. Alors, on reparlera, on resignalera tout à l'heure à nos auditeurs l'existence de ce livre, de votre livre, mais vous avez aussi étudié deux femmes, alors il nous reste un gros 5 minutes, deux femmes, là aussi, où on aurait pu faire toute une émission, Agatha Christie d'un côté, Louise Michel de l'autre, bah, ce n'est pas exactement le même genre de femme. Alors, comment vous choisissez vos femmes, finalement?
Parce que j'aime les femmes fortes.
Oui.
Voilà.
Oui.
Qui ont une personnalité et qui ont une... quand je dis qui ont une personnalité, qui sont fortes avec elles-mêmes. Je veux dire, qui ont une... sont honnêtes avec elles-mêmes. Voilà. Voilà. Ça me semble très important.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est comme vous dites, un domaine très différent. Alors, Agatha Christie, bien sûr, la grande romancière, c'est quand même la femme qui a inventé le roman d'énigme, qui est un peu différent d'ailleurs du roman policier. Et là aussi, les gens ne connaissent pas bien sa vie, parce que cette femme qui a divorcé, pour elle, c'était l'horreur de divorcer. Hein, quand son mari lui a demandé le divorce, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a disparu, elle a complètement raté son coup, parce qu'elle pensait que ça allait la pitoyer, pas du tout, était encore plus furieuse, ils ont divorcé aussitôt après. Par contre, elle, cette disparition est devenue une affaire d'État, nationale, qui l'a complètement traumatisée. Et ensuite, elle a toujours voulu cacher sa vie privée. Et puis, elle a rencontré un homme plus jeune qu'elle, archéologue, qu'elle a épousé. Et finalement, elle a passé, on ne sait pas que cette femme a passé la moitié de sa vie, non pas dans son Devon natal, qu'elle adorait, à manger notamment de la crème fraîche, parce que c'était une très grosse gourmande, mais sur les champs de fouilles, en Syrie, en Irak, où elle a fait la carrière en grande partie de son mari. Faut pas mentir. Et bon, elle a décidé à partir de ce moment-là de construire sa vie d'abord, qu'elle ne quitterait plus jamais son mari. Il l'a trompée à la fin de sa vie, mais elle est restée. Et elle a écrit, travaillé, ça aussi, c'est une travailleuse elle aussi. Hein, quand elle était dans sa maison à Ninive, et c'était le bureau tout petit, et elle avait au début qu'une caisse avant d'avoir un vrai bureau, et elle travaillait. Et c'est une femme c'est une femme, outre que c'est un écrivain extraordinaire, parce qu'elle a des idées, une imagination que peu de gens ont. C'est une femme de conviction. Voilà. Quant à Louise Michel, c'est bien sûr, évidemment, une femme de conviction, parce que c'est une politique engagée.
Ça savait un peu.
Complètement.
Ça doit être assez rare qu'on parle de Louise Michel sur Radio Courtoisie. Mais donc, allez-y, profitez-en.
Je vais dire honnêtement que quand j'ai parlé de Louise Michel à mon éditeur, il a hésité 5 minutes. Et puis, oui, pourquoi pas. Et puis, finalement, il a bien fait. Puisque finalement, il s'est aperçu que Louise Michel aussi est un personnage intéressant, même si on n'est pas... elle devient anarchiste. Au départ, c'est une républicaine, institutrice, fille d'un châtelain. C'est extraordinaire, parce que la bonne, qui est sa mère, n'est pas mise à la porte. À l'époque, on mettait quand même la mère à la porte. Non, elle est élevée par le châtelain et sa femme. Donc, elle reçoit une très bonne éducation. Elle est extrêmement cultivée. Et puis, à la mort, elle se retrouve du châtelain et de sa femme, elle se retrouve la bâtarde. Elle monte à Paris, elle est institutrice, républicaine. C'est la fin du Second Empire, la guerre 70, la Commune, elle prend les armes, elle trouve que le sang, elle aime ça, même si après elle ne tuera plus personne. C'est le seul moment. Et puis elle est déportée en Nouvelle-Calédonie quand même pendant 8 ans. Et là, elle découvre, c'est très important le voyage en Nouvelle-Calédonie, et elle devient anarchiste. Alors, l'anarchie, oui, elle veut renverser le vieux monde, et elle ne dit pas ce qu'il y a après, il n'y a rien, enfin, on ne sait rien, c'est pas...
C'est d'ailleurs le propre de l'anarchiste, il ne va pas reconstruire
On ne sait pas ce qu'il y aura après. Mais c'est une femme qui a dévoué sa vie à sa cause, c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1800-1900, c'est la seule grande femme politique publique, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autres. Et elle attire les foules. Et elle attire du monde tout le temps, tout le temps. Y compris les bourgeois qui descendent pour aller l'écouter dans l'actuelle salle de l'Olympia, où elle donne des conférences.
Bon, vous avez compris qu'il n'y a pas que chez George Sand qu'il y a de la passion. Passion de la vie, passion de l'étude. Agatha Christie, je signale, c'est paru chez Perrin. Ça existe aujourd'hui dans la collection Tempus, qui est la collection de poche des éditions Perrin. Louise Michel, c'est paru chez Perrin aussi en 2024, et il y aura probablement la version Tempus bientôt. Mais pour l'heure, je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie d'aller acquérir ce magnifique livre de Marie-Hélène Bellac, George Sand, La passion de la vie, Perrin, Bibliothèque nationale de France. Je vous remercie beaucoup d'être passé par chez nous. On attend le prochain, parce qu'on peut parler comme
chose,
ça avec vous.
Ce sera différent.
Eh bien, écoutez, on en parlera.
Ce sera passionnant encore. Ce sera encore une vie passionnante.
Ouais, on va en parler avec beaucoup de plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et puis, comme je termine toujours par un petit conseil cinéma, je vous conseille évidemment à tous d'aller voir, revoir et d'emmener voir, vos amis, le film L'Abandon sur les derniers jours de Samuel Paty. D'abord, c'est un film très réussi sur le plan cinématographique, mais évidemment, il est beaucoup plus que ça. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit en compagnie d'Axel. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, 22 juin, je crois.
D'entendre l'émission Lundi Soir dirigée par Thierry Lenz, diffusée en direct sur Radio Courtoisie le 25 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.